Voilà, Mia revient, c'est ce que dit sa mère, effectivement.
Et Emmanuel Macron, fils, s'est félicité de cette libération. Une grande joie que je partage avec sa famille et avec tous les Français. J'exprime aussi, dit le chef de l'État, ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. La France agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible. Il reste 4 otages ou portés disparus français, franco-israéliens. Ce sont 4 hommes, des hommes qui, pour l'instant, ne font pas partie des listes d'otages libérés. Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron, qui sera d'ailleurs au Qatar très, très rapidement, puisqu'il va quitter la COP28 et rejoindre le Qatar. Le Qatar qui joue un rôle essentiel dans ces négociations.
Oui, alors évidemment, aujourd'hui, on est essentiellement dans la joie, dans le soulagement aussi, puis en même temps dans l'anxiété pour ce qui va se passer à partir de demain. Mais il y a parallèlement une action diplomatique. Alors, la France, il faut dire les choses comme elles sont, n'est pas l'acteur majeur dans cette affaire. Mais on fait ce qu'on peut. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron a été actif et on a de bonnes relations, qui sont toujours ambiguës, mais qui sont de bonnes relations avec le Qatar. On a de bonnes relations, là encore ambiguës, avec l'Égypte, et on essaye de les utiliser au maximum pour faire avancer les choses. Enfin, disons que nos efforts sont convergents avec ceux des États-Unis, même s'ils sont évidemment moins spectaculaires et moins efficaces, parce que ce n'est pas nous qui fournissons les munitions à Tzal, par exemple, et qu'il y a beaucoup de... Il y a la proximité entre Biden et Israël compte terriblement en ce moment.
Le secrétaire d'État américain Blinken était
bien
d'ailleurs
bien
sur place. Il a rencontré le premier ministre israélien.
Et ça doit bien faire une demi-douzaine de fois en un mois qu'il y est. En plus, il connaît très bien les deux pays par principe. Et il joue un rôle qui est un rôle positif. Même personnellement, il est très investi. Je dirais que nous, il faut être heureux aujourd'hui. Il faut penser à ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui restent, les 4 Français, mais tous les autres, qui sont évidemment encore malheureusement très nombreux. Et puis ensuite, il faut se demander ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, je pense que Macron a eu raison, même si je répète, c'est pas lui qui détermine les choses, mais il a eu raison de lancer le thème vraiment dans les premiers de la trêve humanitaire, qui quand même a abouti à la situation d'aujourd'hui, au fait qu'il y a eu des otages relâchés et changés, évidemment. Maintenant, il faut aussi être angoissé pour la suite.
Trêve qui s'arrête demain matin.
C'est ça, oui, qui s'arrête demain matin, dans un climat qui n'est pas un climat de connivence. Hein.
Thomas Legrand, bonsoir. Vous avez été reporter à Gaza pour RTL.
J'ai été plusieurs fois à Gaza, il y a longtemps, j'étais jeune. C'était à la fin du siècle dernier, donc Gaza n'était pas dans la même situation, mais enfin c'était déjà un endroit difficile à vivre. Et voilà. Et je regrette d'ailleurs aujourd'hui que on ne puisse pas, les journalistes ne puissent pas être à Gaza pour toutes les raisons qu'on connaisse, parce que on a et on le voit ici tous les jours, et nous à France Inter aussi et à Libération pour lesquels je travaille, on est présent et vous aussi vous êtes présent de ce côté-là. Ça serait bien qu'on puisse être présent de l'autre côté. On ne peut pas l'être.
Pourquoi ?
On ne peut pas l'être parce que le Hamas ne le veut pas, sans doute, et parce que Israël ne le veut pas non plus. Et Israël ne le veut pas, c'est un problème. C'est un problème. On se débrouille, toutes les rédactions se débrouillent, la vôtre aussi, pour avoir les souffrances des deux sociétés civiles. Je rappelle qu'il y a des prisonniers qui sont libérés, et qui retrouvent leur famille. Alors les prisonniers, ils sont sans doute pas, pour la plupart, pas prisonniers pour rien. Et là, il s'agit d'innocents. Mais parmi les prisonniers en Israël, il y a aussi des enfants qui n'étaient sous aucune charge. Ils retrouvent leur famille et c'est quelque chose de bien qu'on ne peut pas couvrir de la même façon. Alors.
Là, de toute façon, à chaque fois, ce sont des images du Hamas. Hein.
Bien sûr, c'est des images du Hamas, mais on ne peut pas se satisfaire d'avoir des images du Hamas, franchement. Ce n'est pas très satisfaisant. Et c'est bien de le montrer, d'ailleurs, et de le dire. Ce n'est pas satisfaisant d'avoir des images du Hamas, et ce n'est pas satisfaisant de ne pas pouvoir être de l'autre côté, mais on n'y peut rien, et chaque rédaction essaye de se débrouiller.
Vous voulez réagir ?
Oui, je ne peux pas m'empêcher de réagir à ce que vous venez de dire, monsieur. Oui, parce que vous dites que les journalistes ne peuvent pas rentrer dans Gaza du fait du Hamas. Ça, c'est certain. Vous avez rajouté du fait d'Israël.
Ah oui.
Je ne pense pas qu'Israël empêche les journalistes d'entrer dans Gaza.
Les journalistes ne peuvent pas approcher de la zone.
Et l'autre sujet sur lequel je voudrais réagir, c'est quand vous parlez de la libération des prisonniers palestiniens, vous avez bien fait de dire qu'effectivement, ils n'étaient pas innocents s'ils sont emprisonnés.
On ne sait pas, il y en a plein qui n'ont pas aucune charge. Il y en a qui n'étaient pas condamnés, qui n'étaient même sous aucune charge, donc on ne sait pas. Il y a un enfant de 12 ans notamment qui n'avait pas de... rien de posé sur lui.
Alors, je demande à voir.
On demande tous à voir.
Vous ne les pas mettre sur le même pied d'égalité.
Je ne les ai pas mis sur le même pied d'égalité. On ne peut pas mettre effectivement sur le même pied d'égalité. Ce n'est certainement pas ce que vous avez fait et on vous en remercie. Mais en plus, je pense que les mots ont leur importance parce que lorsque vous parlez d'enfants qui sont emprisonnés, je crois qu'il faut faire la différence entre avant 18 ans. Il y a les bébés, il y a les enfants, il y a les adolescents. Quand effectivement, c'est un garçon de 16-17 ans qui a été arrêté pour fait d'armes. 12 ans, je vous dis encore une fois, j'aimerais qu'on en apporte la preuve, mais un adolescent qui tente de poignarder ou qui poignarde des civils dans la rue, c'est plus un innocent. Voilà, même s'il est en dessous de 18
ans. 12 ans, bien sûr. Il y a en Israël beaucoup de prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons, surtout depuis ce dernier gouvernement, qui sont dans les prisons sans être condamnés et sans même qu'aucune charge ne pèse contre eux. Ils sont en attente d'une instance. C'est pas du tout la même chose que d'aller prendre des civils, des enfants, des bébés, des vieillards. J'en conviens. Je faisais une remarque d'ordre journalistique. C'est-à-dire que je regrettais que nos rédactions, la vôtre, les nôtres, ne puissent pas aller, et je soutiens encore une fois qu'on ne peut pas y aller à cause des deux belligérants. Et c'est très insatisfaisant pour tous les journalistes de devoir traiter l'information avec les images du Hamas, franchement. C'est quelque chose qui m'embête, mais... c'est tout, c'est un...
Alors, que vous me parliez de... Il faut expliquer pourquoi on floute ces images aussi.
Oui, bien sûr.
Pourquoi est-ce que régulièrement, on ne les montre que partiellement parce que ce sont des images qui nous sont fournies par le Hamas et ce sont des images de propagande.
Ce sont des images de propagande qui sont évidemment tournées non pas à l'insu, mais sans l'accord de ceux qui sont dessus. Et c'est évidemment pour les préserver qu'on choisit de flouter ces images.
Voilà, donc l'image du jour, c'est celle-là, la principale, vous voyez, au milieu de la foule, en plein centre de Gaza, la libération de Mia Shem, qui sort d'une voiture pour être emmenée dans un véhicule du CICR, c'est-à-dire du Comité international de la Croix-Rouge, parce que c'est le protocole tel qu'il a été défini pour la libération des otages. Ce sont ces véhicules qui partent sur Israël, qui c'est à quelques kilomètres, la frontière.
Oui, alors en l'occurrence, on passe la plupart du temps par l'Égypte, puisqu'on sort par le sud de la bande de Gaza, c'est-à-dire par le point frontière de Rafah. On est à ce moment-là tout près d'Israël, bien sûr, mais sur le territoire égyptien. Et puis, les otages qui sont désormais d'ex-otages, ceux qui viennent d'être libérés, sont remis aux autorités israéliennes, qui à ce moment-là les prennent en charge et les ramènent sur le territoire israélien selon des modalités qui ont un peu varié selon les jours, qui dépendent naturellement d'urgences éventuelles de nature médicale. Mais l'idée, c'est d'aller plus rapidement possible vers les hôpitaux et vers les familles, bien sûr.
Là, deux otages ont été libérés, dont Mia Shem. Mais en tout, ce sont 10 otages qui doivent être libérés aujourd'hui selon l'accord.
Oui, absolument. Ce sont les modalités. On a d'abord eu un premier cycle de 4 jours où il y avait donc en tout 50 otages qui ont été libérés en échange de 50 détenus palestiniens qui ont été libérés aussi des prisons israéliennes. Et puis on a prolongé par cycle de 24 heures à chaque fois 10 otages libérés, 30 prisonniers palestiniens libérés. Et la question est de savoir maintenant...
La trêve s'arrête demain matin.
La question est de savoir si on va pouvoir la prolonger.
Est-ce que les deux parties le veulent?
Alors, ce qu'on se disait jusqu'à ce matin, c'est que les deux parties, oui, étaient plutôt favorables à la poursuite. On n'avait pas encore d'accord explicite, toujours sur l'égide du Qatar, naturellement. Ensuite, la question est de savoir si ce qui s'est produit ce matin, et notamment l'attentat à Jérusalem-Ouest qui a fait 3 victimes devant un arrêt d'autobus, est de nature à remettre en cause ce qui se passe. Pas pour l'instant. Personne n'a dénoncé l'accord. Personne n'a annoncé l'intention de se retirer de ce processus au moment où on se parle. Tout ça va se décider dans les prochaines heures.
Mais on voit Alain Duhamel qu'il y a une pression quand même occidentale pour que la trêve se poursuive. C'est ce que souhaitent les Américains, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. On continue ce processus de libération d'otages le plus longtemps possible. Il reste encore plus de 140 otages, c'est ça le...
Un peu moins, oui.
Un peu moins de 140 otages, j'ai
bien. Non, bon, on voit bien que la pression de tous les gouvernements occidentaux, le plus puissant, les États-Unis, mais les autres, sur ce point, l'Union européenne est très unie. Hein. C'est pour faire ce qu'on peut pour permettre au maximum d'otages d'être libérés, en sachant qu'il y a beaucoup de travail et en sachant surtout que tout peut être mis en cause à n'importe quel moment. Bon, au-delà de ça, il y a des gouvernements qui ont les moyens ou pas d'aider Israël dans cette affaire. Il faut dire les choses comme elles sont. Les Occidentaux, dans leur majorité, sont de façon très visible du côté d'Israël, alors que tous ceux qui regardent Al Jazeera et qui sont nombreux, sont dans le camp d'en face. Et les négociations qui ont lieu sont pas toujours facilitées par cet état de choses, mais qui est inévitable. Je pense qu'en France, on sous-estime ce qui est montré sur Al Jazeera et qui donne une représentation évidemment biaisée, mais une représentation qui est un peu à l'opposé de la nôtre. De la nôtre, je veux dire, de celle qu'on
bien
voit.
Sûr. Oui. Cette trêve, elle a qu'un seul objectif, c'est de traiter la question des otages. Et les deux parties veulent la traiter, puisqu'il y a les deux parties ont un intérêt à avoir rentré les leurs chacun.
Les
Européens et les Américains voudraient que cette trêve se poursuive aussi pour des raisons plus politiques. Mmh. Pour l'instant, on n'y est pas. La pression que peuvent avoir les Européens, c'est que parmi les otages, il y a beaucoup de binationaux. Et donc, quand Emmanuel Macron ou un autre chef de gouvernement ou d'État européen négocie avec les Qataris ou avec les Israéliens ou avec peut-être par des biais différents avec le Hamas, il représente aussi ses concitoyens. Et il y a un petit poids. Mais ce qui serait plus intéressant maintenant, c'est de savoir si on peut prolonger la trêve pour des raisons politiques, des raisons humanitaires, et au moins, si la trêve cessait, d'obtenir ce que veulent les Américains. Parce que vous disiez, Alain, on est du côté d'Israël, évidemment, mais les Américains comme les Européens ne sont pas tout à fait d'accord avec Israël pour que les choses reprennent comme avant, donc, aussi massivement.
Il y a Israël et il y a Netanyahou.
Il y a Netanyahou, il y a Israël. Il y a autour de Netanyahou des gens avec qui nous sommes beaucoup plus proches, peut-être Benny Gantz, et puis d'autres, partie de sa majorité avec laquelle les Européens ont des problèmes. Donc, c'est un problème à multiples facettes. Mais l'idée maintenant, c'est quand même de faire que la trêve puisse se poursuivre, et pas simplement pour des raisons humanitaires d'échange d'otages.
Le Premier ministre Netanyahou a encore redit aujourd'hui que la guerre reprendra. Mais que dit la société israélienne sur cette question ?
Oui, là, moi, je vois les choses un peu différemment, parce que quand on parle de pression, il y a deux sortes de pression. Il y a la pression pour libérer les otages, et il faut une trêve pour ça, et il y a la pression pour avoir la trêve pour des fins humanitaires. Donc, les pays occidentaux, si les États-Unis, Blinken aujourd'hui, la France, etc., la pression est plutôt cette côté humanitaire. Israël n'a pas besoin d'une pression d'autres pays pour avoir... Voilà, la volonté
pour libérer les otages,
parce que la société israélienne est complètement unie derrière cette but qui est maintenant la priorité.
D'accord,
avant de reprendre la guerre.
Mais ensuite, reprendre la guerre. Les Israéliens souhaitent la reprise des combats?
Moi, je pense c'est qu'ils ne cherchent pas à poursuivre les combats. Ce qui est important pour les Israéliens, c'est que ceux qui habitent à côté de la bande de Gaza, puissent retourner chez eux. Et ça sera impossible si le Hamas n'est pas vaincu, ou au moins que le Hamas puisse plus opérer militairement. Et c'est pas le cas. On n'est pas arrivé à cette situation, ce qui veut dire qu'à un certain moment,
l'attaque à Jérusalem revendiquée par le Hamas.
Tout à fait. Et là, exactement, on voit la pression de la société israélienne. Parce que, avec un événement comme ça, les gouvernements israéliens avait toute la légitimité, puisque Hamas a revendiqué cet attentat. Mmh. C'est Hamas qui a dit, personne n'a montré les doigts. Israël était très, très vigilant, disant, si ces deux personnes, si ces deux terroristes étaient membres de Hamas. C'est le Hamas même qui a revendiqué. Donc, les gouvernements
israéliens... Hamas qui dit d'ailleurs, la résistance continue doit s'amplifier.
Tout à fait. Donc, les gouvernements israéliens étaient légitimes, en ce cas, de dire, oui, vous ne respectez plus l'accord. Les gouvernements israéliens n'ont pas dit ça. Pourquoi ? parce que la priorité maintenant, c'est libérer des otages et trouver encore des accords et des accords pour avoir pas une libération de une ou deux, mais encore des groupes de 10, 15, plus de personnes.